des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seille en votre compagnie au micro de Canal M pour vous présenter cette émission, la seule émission qui se consacre aux livres audio, aux livres sonores. Aujourd'hui, 1er novembre, c'est le jour de la diffusion à l'émission L'amour. L'amour, ça peut allumer un cœur, ça peut faire vibrer ce qui semblait mort parfois, mais ça peut aussi mettre un joyeux bazar dans une vie. On va avoir un entretien avec Marie Demers à qui l'on doit les désordres amoureux, entre autres. Deux hommages dans cette émission. D'abord à Charles Aznavour, un hommage bien plus en mots qu'en musique. Je me suis posé la question, quels sont les livres du grand Charles qu'on peut se mettre entre les oreilles? Et puis, une rediffusion aujourd'hui de larges extraits de l'entretien que j'avais eu le 12 janvier 2017 avec Joanne Fontaine, qui nous avait offert ici même à cette émission un hymne à la vie avec ce livre « Hop, la vie ». Et puis j'ai eu comme une soudaine envie de la réentendre. Il y aura aussi deux chroniques à cette émission, celle de Yannick Olassa et Hélène Gauthier, qui à elles deux vont vous présenter pas moins de 5 ou 6 livres à écouter. Et avant de me tourner vers Marie Demers, eh bien, j'ai trouvé la bande-annonce d'un film qui s'appelle « Petit désordre amoureux ». Puis je me suis dit « Tiens, c'est bien pour plonger dans le sujet ».
Est-ce que vos lits ont des parois?
Pardon? Oui, en métal, ça va?
C'est très bien, c'est très bien.
On voudrait une chambre.
J'ai un petit problème.
Vous le connaissez?
Un peu.
Depuis quand?
On s'est connus parce qu'on travaillait ensemble dans une maison d'édition.
Il avait déjà une solide réputation de tombeur.
Tu crois que tu serais capable de la séduire, de tomber amoureux d'elle, et sans la sauter?
Toi, tu crois pas qu'il y a des formes subtiles de l'amour qui pourraient échapper à la bestialité?
Tu serais capable de le prouver?
Tu pourrais pas, par exemple, tomber amoureuse d'un type sans finir dans son lit?
Non, parce que moi, il y a que le lit qui m'intéresse. J'ai très envie qu'on fasse quelque chose d'important tous les deux.
Je suis sûr qu'on est sur une fourmilière.
Claire!
Je t'aime. Le reste, je m'en fous. Je veux pas que tu partes, je veux pas que tu me laisses. Je voudrais qu'on soit une sorte d'amis.
Et c'est tout.
Vous avez rien fait?
Si, on a dormi.
Bonjour Marie Demers.
Allô, ça va bien?
Ça va bien, merci. Quand je faisais la recherche pour cette émission, je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, tiens, c'est assez rigolo. Je vais aller écouter ce qui se passe. Puis effectivement, j'y ai retrouvé toutes sortes de désordres, mais par bribes, les mêmes désordres amoureux que ceux qu'on retrouve dans votre livre, qui porte donc ce nom-là de « Les désordres amoureux ». Je précise qu'on en a un autre, parce que ça, c'était votre deuxième.
Hein? Oui.
C'est bien ça. Il y en a un autre qui s'appelle « In Between ». Et il y a quelqu'un dans quelques minutes qui va venir nous en parler aussi. Alors, c'est la fête à Marie Demers,
yes,
en cette première demi-heure. Marie, je ne vous connaissais pas, honnêtement. Je vous ai découverte avec les désordres amoureux, qui est un livre, une espèce de comble de l'insatisfaction, de l'incertitude, de la désolation aussi. Il y a cette Marianne, donc, que j'ai sentie à la fois, très honnêtement, tellement loin de mes amis, de femmes et de moi-même, mais si proche en même temps. On est toutes pareilles, Seigneur. On recherche toutes la même chose, mais on ne sait pas quoi. Mmh. Elle est en quête de quoi, cette femme-là? L'amour absolu? Et si oui, pour elle, c'est quoi, l'amour absolu?
Ben, je ne sais pas, tu sais. En fait, moi, je n'aime pas ça, terminer mes romans avec une réponse. Fait que je pense qu'on termine ce roman-là en sachant pas nécessairement comment répondre à la question que vous venez de poser. Mais moi, je voulais mettre en scène quelqu'un qui se cherche,
qui
en fait, puis qui, sans trouver de réponse, apprend à s'aimer davantage. Puis bon, ça a l'air un peu quétaine comme ça, mais disons que moi, j'en suis arrivée là, tu sais, à arrêter de courir après ma propre queue, là, un peu, pour juste accepter comment moi je suis, accepter qu'on est tous imparfaits, puis qu'il faut apprendre à dealer avec qui on est. Puis Marianne, ben, c'est quelqu'un qui est particulièrement imparfait, je pense.
Elle est imparfaite, mais c'est comme je l'ai écrit aussi dans le bouquin à un moment donné, en préparant tout ça, je me suis dit que de toute façon, on est tous une somme d'erreurs.
Hein. Exact.
On est tous une somme d'erreurs, une somme de frustration, d'inhibition, de malheur. Moi, je dis toujours que derrière chaque ride, il y a des histoires que les autres ne connaissent pas forcément. Alors, je me dis, un couple amoureux, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est la réunification, c'est l'union de deux souffrances? Et c'est souvent ce qui arrive, parce que les gars aussi, là-dedans, on s'aperçoit qu'ils sont j'aime pas dire ils sont foqués, parce qu'elle est pas foquée, elle. Ben, c'est pas une fille foquée, c'est une fille qui est...
Elle est foquée, puis elle est pas foquée, comme tout le monde.
Comme tout le monde, ouais, c'est ça. Elle est dans une quête.
Ouais, puis elle apprend à dealer avec. Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a tellement de la pression sociale pour être en couple.
Ouais.
On est tellement mal vu en tant que célibataire, comme si on était un être inachevé, puisqu'on n'avait pas trouvé la personne qui nous sayait le mieux. Mais pourtant... Tout peut se faire. On peut être bien célibataire, on peut être bien seul. Pourquoi on doit juger les gens qui sont pas bien en couple? Peut-être que c'est pas fait pour tout le monde. T'sais, pourquoi c'est la quête absolue de trouver ta moitié? Moi, ça, c'est quelque chose qui me dérange. Puis je pense que je me suis poussée à être en relation souvent, parce que Marianne, bon, c'est un peu moi. Je me suis poussée à être en relation.
J'osais pas vous poser la question.
Ah non, c'est...
Parce que souvent, les auteurs détestent qu'on leur pose cette question-là.
Moi, ça me dérange pas. Bon. Je pense que j'ai fait la paix avec ça. Je suis Marianne. Je suis comme j'étais Ariane dans le précédent roman.
Ouais.
Puis j'ai pas de pudeur, moi. Ça me dérange pas de mettre ma vie à jour comme ça, même si c'est pas des moments glorieux, comme quand elle se pète la gueule en vélo après avoir trop bu.
Ah ouais, exactement.
Une chose qui m'arrive assez souvent, d'ailleurs. Mais c'est ça, je voulais comme juste mettre en mots cet inconfort-là que j'ai de pression de trouver l'amour, etc. T'sais.
Reculez-vous un tout petit peu du micro, je vous trouve bien, bien près, mon ami, puis ça va s'entendre. Il y a aussi dans ce... Parce que, bon, évidemment, on pense qu'elle est un peu foquée, tout ça, mais en même temps... Les douleurs qu'elle vit. Par exemple, la scène, moi, ça, je trouve que c'est un morceau d'anthologie. Voyons, je vais aller voir à quelle page je sais. La page 144. Lorsque, bon, ben, vous êtes enceinte de votre ex. Je voudrais vous en lire un peu, quelques extraits, parce que c'est vraiment très fort. La sonnerie retentit. Alors déjà ça, c'est Bobby McFerrin qui siffle « Don't worry, be happy ». Un numéro étranger avec beaucoup de chiffres, j'ai envie d'envoyer valser mon téléphone au bout de mes bras, le voir éclater contre le mur avec le restant de mes jointures. J'essaie de remplir mes poumons, j'inspire profondément, un sanglot m'étouffe. En expirant, un autre appel, j'appuie sur l'icône du téléphone rouge, celui qui refuse de dialoguer, d'écouter, d'entendre. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Parce que vous êtes enceinte. Donc ça, c'est les mots de l'autre qui vous dit « tu sais ce qu'il te reste à faire ». Et finalement, bon, vous vous disputez, etc. Et finalement, vous décrochez. « Allô, Marianne, raccroche pas, dit-il. Je sais que ça va pas et je suis tellement désolée pour ce qui t'arrive. J'aimerais être là pour toi en ce moment, pouvoir te serrer dans mes bras, te dire je t'aime, Marianne, tu sais. » Et là, c'est écrit en italique. « Ça m'arrive pas juste à moi, abruti, ça t'arrive à toi aussi. Le comprends-tu, ça, le ressens-tu. » Ah, je trouve ça tellement fort comme scène. Est-ce que tu peux attendre? Là, en plus, il vous dit... Bougre d'imbécile, est-ce que tu peux attendre que je revienne? Je voudrais vraiment t'accompagner. Et là, vous lui dites, m'accompagner où, crise d'épée? Je t'ai dit que j'allais le garder. Je t'avais averti. C'est pas du vent, les mots. J'irai nulle part. T'as compris. Et puis là, je continue à lire. Ma mâchoire se crispe. Je presse mes dents les unes contre les autres. Elles vont se briser ou se fondre ensemble. Vous avez une chouette écriture.
Ah, merci.
Marie, vraiment. L'air froid écorche mes poumons, l'arbre devant mon immeuble grince, je grince avec lui. Waouh. Je descends vers la rue, m'assois sur le bord du trottoir, nu-pied sur l'asphalte gelé. Ok, donc il y a quelqu'un qui s'approche, et là vous lui criez « Fuck you !» Criez me calme, écrivez-vous, je peux respirer maintenant, j'éteins mon téléphone, mes joues sont trempées, il y a de la neige entre mes orteils, un homme dans une doudoune. Michelin s'approche, il me toise avec bienveillance à la rescousse de la folle. « Est-ce que ça va aller, mademoiselle? Vous avez besoin d'aide? Toi, va chier !» Il prend un air offensé, s'éloigne dans ses choux-claques. « J'ai besoin de personne. » Quelle détresse, quoi.
Mais c'est drôle parce que vous lisez, puis je ressens encore comment je me suis ressentie quand je l'ai écrit. Je le sens encore.
Exactement en comme c'est... ça. Hein?
Oui, oui.
Et puis, il y a les moments où elle est seule. Ça fait quasiment du bien, comme entre autres quand elle part en Colombie. Mm-hmm. Et puis, elle... ça, je me souviens plus. À chaque fois, je cherche ma page. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, voilà. Sur le parvis de l'église, affalée sur les marches, le cœur battant, je reste longtemps. Je suis la fille la plus chanceuse du monde. Je me trouve dans un pays magnifique, en Colombie, en vue d'un long voyage avec pour seul objectif de réaliser le rêve de ma vie, écrire un roman. Et là, on vous sent, quand on voit les pages que j'ai lues avant, on vous sent complètement et on se dit, mais oui, c'est vrai que finalement, cette fille-là, elle est bien seule.
Mm-hmm, exact.
C'est pour ça que tantôt, hors honte, je vous disais, comment ça va les amours?
Ouais.
Marie.
J'ai dit inexistant, ce qui est vrai, à part, vous savez, l'existence du chien, le petit
oui.
chien normand, il existe pour vrai, Henri IV, c'est même une vedette maintenant de littérature jeunesse, parce qu'il fait partie aussi de mes aventures en littérature jeunesse. mon seul amour, c'est Henri IV,
c'est Henri IV.
Le pug extraordinaire, oui.
Je voudrais, on va faire un tout petit break musical, le temps qu'on appelle Yannick Olassa, qui est une collaboratrice.
Oui, je la connais, oui.
C'est vrai, vous connaissez
oui,
Yannick?
Oui.
Eh bien, c'est Yannick qui va nous parler. Elle aussi, elle a lu Les désordres amoureux et elle a lu aussi In Between. Alors, un petit peu de musique et on l'appelle. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Ça va bien Yannick? Je suis en compagnie, bien, merci. Je suis en compagnie de Marie Demers. On a déjà devisé gaiement, si on peut dire, sur les désordres amoureux. Vous l'avez lu?
Oui, je l'ai lu dernièrement. Et j'ai beaucoup aimé.
C'est vrai?
C'est sûr que c'est un style qui est différent d'In Between. Hein. Ça, c'est d'ailleurs une question que j'ai pour Madame Demers, parce que le ton est complètement différent d'In Between, mm-hmm. qui était le mm-hmm. premier roman. Et je me demandais, bon, avant d'aller plus loin, est-ce que c'était ce style d'écriture qu'on peut s'attendre pour le troisième ou est-ce que ça va être quelque chose entre les deux?
Marie Demers.
C'est une bonne question. Mais c'est dur de s'auto-analyser un peu. Mais moi, je trouvais que c'était une continuité quand même d'In Between au désordre. Je pense que c'est un style un peu plus assumé. Je pense que je mm-hmm. me trouve de plus en plus. Puis le prochain, je peux vous dire le titre tout de suite, ça s'appelle Elsie et Coco. Ça va sortir à l'automne prochain. Puis, je sais pas, c'est différent encore, c'est plus dans l'autofiction, là, c'est vraiment un récit d'amitié, puis encore des douleurs amoureuses, parce que on n'épuisera pas le sujet en quelques livres, mais je sais pas, c'est dur de répondre à ça, mais je pense que ce style-là, c'est le mien, puis il devient de plus en plus mien.
Et In Between, moi, je ne l'ai pas lu. Si on veut le présenter à nos auditeurs, pouvez-vous le faire, Yannick?
Oui, bien sûr. Mais en fait, In Between, c'est l'histoire d'Ariane, qui a 21 ans, mm-hmm. Qui est une jeune femme comme tant d'autres à son âge. Hein, elle se rend compte que le choix de carrière qu'elle a fait, ça ne lui convient pas. Et puis, bon, à un moment donné, elle décide de tout laisser tomber à sa deuxième année d'université. Et puis, elle s'en va passer 3 mois en Asie du Sud-Est. En fait, c'est supposé être 3 mois, mais son séjour va être écourté parce qu'un drame va se passer. Alors, dans les premières pages, je vois le polypunch, il dit que bon, son père décède et elle revient à Montréal. Et là, une fois arrivée à Montréal, elle décide de repartir, bien sûr, parce que, elle trouve sa mère très, très manipulatrice, la belle-mère, ça va pas super bien avec. Mmh. En fait, c'est un livre qui parle beaucoup de famille, mais aussi de deuil. In between, c'est vraiment, en tout cas, j'ai trouvé, c'est cet espace de transition entre l'équilibre d'avant et celui qui viendra. C'est cet espace inconfortable-là, quand on n'a plus de repères puis qu'on doit en trouver des nouveaux. Là. Celui-là, ça a été un coup de cœur pour moi.
Oui.
Bien que n'ayant pas 21 ans au moment où je l'ai lu il y a 7 ans à sa sortie, j'étais dans la crise de la quarantaine, ça tombe bien.
Chacun sa crise.
Oui, ben c'est ça. De toute façon, tout le monde peut s'y retrouver parce que ces moments-là de deuil, de mettre fin à quelque chose pour aller vers autre chose, mais on ne sait pas encore quoi, tout le monde les vit à plusieurs moments dans sa vie.
Et l'équilibre, Yannick, je vous serais d'accord avec moi, je trouve qu'entre équilibre et déséquilibre, dans les désordres amoureux, on est la frontière est mince, hein? C'est très, très ténu aussi, quoi. Mm-hmm. On est comme toujours sur une ligne mince, là, et puis... Écoutez, merci beaucoup, Yannick. On se retrouve en seconde partie tout à l'heure. Vous nous présentez un livre?
Oui.
D'accord. Merci d'avoir été là. Et puis, je voudrais saluer Marie Demers. Vous pouvez rester là si vous voulez, Marie. J'ai décidé... voilà un homme dont on va parler maintenant, qui est Charles Aznavour. On en a beaucoup parlé au moment de sa mort. On l'a surtout écouté ad nauseam. Moi, personnellement, j'en pouvais plus. Mais il faut dire que c'était réellement un géant. Et c'est un type, bizarrement, qui a connu, comme vous, des désordres émotionnels et amoureux. Et c'est un pur hasard que j'en parle aujourd'hui. Donc, je suis sûre qu'il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser dans tout ce qu'il va nous dire. Parce que j'ai essayé de faire en sorte, dans ce segment-là, qu'on écoute le plus possible le grand Charles et pas forcément chanter, mais aussi nous parler. On commence cependant par une chanson, parce que peut-être que c'est ma préférée à moi. Alors, très égoïstement, c'est celle-ci que j'ai choisie. Puis tout de suite après, on va réentendre Aznavour.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'avais tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, mes yeux cherchant le ciel, et le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé. Conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon. Critiquer le monde avec des invalidus. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien, non, rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui, car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. J'ai gâché ma vie et mes jeunes années du du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires, j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mais 20 ans.
Finalement, j'ai pas raconté ma carrière. J'ai raconté mes difficultés d'homme. J'ai raconté l'envie de réussir, de sortir d'une médiocrité, de gagner sa vie. C'est un point très important de gagner sa vie dans mon livre. Et puis, les souvenirs agréables, même quand ça a été très difficile, surnagent toujours. Mais je n'ai pas essayé de raconter ma vie. C'est la construction d'un homme dans un métier précis.
La voix d'Aznavour, Aznavour par Aznavour, c'était aussi le titre d'un livre. Je dis « c'était » parce que c'est un livre que j'ai essayé de retrouver. J'ai essayé de retrouver une trace audio de ce livre-là et je n'en ai point trouvé. Ça, c'était une entrevue qui datait des années 70. Bon, il faut dire que ça, c'était la première biographie d'Aznavour, mais inutile de vous dire qu'il y en a eu d'autres. Alors, je vais vous faire grâce hein, de cette vie dont vous avez beaucoup entendu parler. J'ai plutôt choisi de vous inciter peut-être à lire quelques livres qui retracent son chemin artistique, ses chemins d'homme et d'humaniste. Par exemple, au SQLA, il y a un livre qui s'appelle « À voix basse » et dont Aznavour nous dit ceci.
Si vous voulez, j'ai pensé dire « voilà mon chemin ». À travers ce chemin, si vous pouvez trouver quelque chose qui peut vous venir en aide, je parle à la jeunesse qui veut faire mon métier, eh bien servez-vous-en.
Il y a aussi un autre livre qui est disponible, entre autres, au SQLA, donc gratuitement pour vous. Ça s'appelle « Tant que battra mon cœur ». Et dans ce livre de réflexion et de souvenirs intimes, l'artiste, ben oui, que l'on connaît bien, l'homme plus secret peut-être, et l'Arménien de cœur, viennent tour à tour pour chuchoter à notre oreille sur le ton de la confidence, et c'est encore mieux pour un livre audio, eh bien, son portrait, ça, c'est un livre qui dessine le grand Charles tel qu'il était dans cet autoportrait « Tant que battra mon cœur ». Il y a également un autre livre qui se retrouve au SQLA, c'est « Le temps des avants ». Celui-ci est beaucoup plus récent. « Le temps des avants, mémoire ». Si le monde entier sait qui est Charles Aznavour, le chanteur et parfois l'acteur, peu ont eu la chance de connaître l'homme. Et un homme qui n'a jamais oublié ses racines, qu'il évoque l'Arménie, la Bohème, les voyages, l'amour, l'amitié ou encore Hollywood, c'est une personne vraie et humble, qui, après plusieurs décennies d'une carrière ininterrompue, qui revient sur son passé dans le temps des avants. Alors, ça nous donne des moments drôles ou dramatiques, inattendus et émouvants, qui nous permettent de mieux comprendre ce personnage emblématique, qui nous parle de cet attente, celui de ce temps, pardon, le temps, celui des avants. Vous pouvez également aller sur AVH, hein, l'association Valentin Ahuy. Là, on peut trouver, entre autres, un livre qui s'appelle « Confidence d'un enfant de Bohème ». Ça a été écrit par un de ses meilleurs amis, Richard. Richard et Charles sont allés ensemble à Moscou, à New York, à Chicago, à Los Angeles, en Espagne, en Angleterre. Charles a été le témoin de Richard à son mariage. Richard qui a organisé les premières de Charles à l'Olympia. C'était vraiment un ami... très intime, ils se sont rencontrés tout à fait par hasard dans une rue à Saint-Germain-des-Prés. Et les deux maintenant sont partis. Richard, c'était en 2015 et Charles Aznavour, eh bien, c'était il y a maintenant un mois. Ça s'appelle donc « Confidence d'un enfant de Bohème ». Également à l'association Valentin Ahuy, gratuitement, hein, si vous leur prouvez au moment de l'inscription que vous avez un problème de vision, ce livre. Charles Aznavour, le comédien, le musicien, le magicien, c'est de Christian Dureau. Chanteur, oui, magicien de charme, oui, mais aussi comédien. Mine de rien, il a fait 70 films dans sa carrière. Alors écoutez ce livre, c'est d'autant plus un bon souvenir qu'il n'est plus disponible, celui-ci, en version papier. Et puis enfin, Retiens la vie. de Charles Aznavour. Ça, il l'a écrit. Et je voudrais vous faire entendre tout de suite, plutôt que de vous en parler, ce que Charles Aznavour disait en novembre 2007. Donc, voyez-vous, c'est quand même récent, c'était il y a un an. Il se confiait à Guillaume Durand dans le cadre de l'émission La Grande Librairie au moment de la sortie du livre « Retiens la vie ».
Je me suis dit, je ne vais tout de même pas écrire toute ma vie, je t'aime, tu m'aimes, caresse, promesse. Je dis, faut faire autre chose. Alors j'ai dit, je vais voir ce que je peux faire. J'ai été vers les faits de société. Et tout ce qu'on a pu penser, je l'ai écrit. Le divorce, l'enfant que l'on veut avoir. Dans les premières chansons, j'ai même écrit l'accouchement de la femme. J'ai été très très loin. Après, j'étais les non-entendants, les non-voyants aujourd'hui. J'écris ce que les autres n'osent pas aborder. Je suis mort de vieillesse.
Ouais. Vous l'avez trouvé comment, le discours de Chirac à l'enterrement ?
Oh, un peu tremblotant.
Ah. Vous êtes... Vous aimeriez qu'on dise quoi de vous maintenant que vous êtes mort, Charles Aznavour ?
Bah, qu'on dise du bien.
Ouais, ouais.
Mais du bien, bien, hein, pour n'importe quoi.
Ouais.
Qu'on me grandisse, même.
Qu'on vous grandisse. Vous savez que vos ventes de disques sont reparties, c'est énorme depuis que vous êtes mort. Hein. Vous avez vendu 10 millions.
J'ai vu, mes arrière-petits-enfants étaient
très
contents.
Ils sont riches, hein. Ces arrière-petits-enfants. Est-ce qu'il y a des œuvres posthumes, des trucs que vous avez jamais publiés étant vivant et qui vont ressortir maintenant, comme les Beatles ?
Oui. Oui, j'ai laissé ma voix sur des bandes électroniques nouvelles.
Ouais.
Et ils ajouteront l'orchestre qu'ils voudront ajouter dessus.
Ah, c'est génial. C'était quoi votre dernier mot avant de mourir, Charles Aznavour ?
Je reviendrai.
Mais on compte bien sur vous pour revenir, monsieur Aznavour. Moi, en tout cas, je vais revenir pour la seconde partie 2 des livres plein les oreilles.
À part cela, la fin de vie. Ah oui, la fin de vie. Mon Dieu, j'ai oublié ma fin de vie. Ben écoutez, ma fin de vie, je sais pas, je sais plus. Je suis mêlée. Je suis fin de vie, je suis pas fin de vie. Il y a des jours, oui. Puis il y a des jours, non. Mais puis, ben on sait pas parce que. Puis, il y a quelque chose aussi que je voulais vous dire. Si jamais, là, je pars. Comme les autres, je pourrais pas revenir vous dire qu'est-ce que ça a l'air là-bas. Pas plus moi qu'une autre. Ciao!
La voix de Joanne Fontaine, ce sont ses derniers mots publics qu'on vient d'entendre. Joanne Fontaine que j'avais reçue en janvier 2017. J'avais décidé de commencer cette année en célébrant la vie, en célébrant la joie de vivre, et quoi de mieux que le livre « Hop, la vie » que Joanne Fontaine avait écrit lors de son premier diagnostic de cancer, qui malheureusement ne sera pas le dernier. Alors, si elle ne reviendra pas pour nous dire ce qui se passe là-haut, moi j'avais le choix de vous rediffuser de larges extraits de cette entrevue présentée à cette émission « Des livres plein les oreilles ». Et puis, en même temps, juste avant de vous lancer cet extrait-là, au cours duquel vous pourrez entendre aussi un extrait du livre « Hop, la vie », et tout ça finira par une chanson, je voudrais tout de suite vous inviter le 8 novembre prochain, donc jeudi prochain, à l'antenne de Radio-Canada, il y a l'émission « Les dieux de la danse ». Elle est épaulée par Marcel Leboeuf. Elle est finalement venue pour la deuxième fois pour faire cette danse et elle est décédée 2 semaines plus tard. Alors, cette entrevue de Joanne Fontaine, on se quitte pendant 15 minutes. Et c'est 15 minutes de bonheur. Joanne Fontaine, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Diriez-vous que c'est le mal noir qui vous atteint depuis déjà quelques années?
Oui, c'est un mal. Je ne sais pas s'il est si noir que ça. En tout cas, j'essaie d'y mettre de la couleur, assurément. C'est une danse qui ressemblerait à du flamenco entre ce mal et moi.
Et vous. Alors, on le sait, parce que les journaux en ont parlé, Dieu soit loué. Je vais passer très vite là-dessus, si vous me permettez.
Moi, je vous suis.
D'accord, mais c'est important quand même de le repréciser si quelquefois quelqu'un ne l'avait pas su. Mais bon, cela fait maintenant bientôt 7 ans. Hein, que,
oui, au mois de mars, ça,
mois
fera,
de mars,
7 ans.
Ça fera 7 ans.
Donc,
et on vous a diagnostiqué, il n'y a pas si longtemps que ça, votre 4e récidive de cancer. Mm-hmm. Mais au moment où vous avez écrit Joanne Fontaine, Hop la vie, c'est au moment où vous avez appris votre premier cancer.
Qui était incurable et qui me restait un an et demi ou deux à vivre. Voilà. Et finalement, au bout de 9 mois, j'ai été en récidive. Et donc, je me suis dit, qu'ai-je fait pour être si en récidive que cela malgré tout? Et j'ai décidé de l'écrire. D'où le livre « Hop, la vie ».
Et vous l'avez écrit pour vous, j'imagine, ça
oui,
doit faire
du bien. Je l'ai écrit parce que c'est une épreuve qui est très difficile, le diagnostic de cancer incurable.
Et, oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Comme j'ai une personnalité assez extravertie, ça me semblait bien difficile de vivre ça toute seule chez moi. J'ai essentiellement besoin d'être dans la lumière. Donc, d'être en avant, d'être vu. J'ai besoin de ça.
Oui.
Alors, en faisant le livre, je décidais de vivre tout ça publiquement.
Je voudrais qu'on revienne...
En partage.
Oui. Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette nature qu'est la vôtre. Parce que je trouve qu'on à chaque fois qu'on parle de vous, c'est Joanne Fontaine.
Quelle est intense.
Voilà, c'est ça, l'intensité, l'exubérance.
Ouais.
Même dans la préface d'ailleurs qui est magnifique
de Daniel
Proulx, il y a des adjectifs là. C'est côté merveilleuse, énergique, et il y a aussi le mot dérangeante. Et alors là, ma question est. Est-ce que ce n'est pas dérangeant parfois de se faire tout le temps, non pas traiter, mais dire de nous qu'on est dérangeant?
Oui, mais comment être autre chose que ce que l'on est? Et je crois que ce qui est chouette, c'est qu'en vieillissant, ce genre de remarques-là nous atteint moins ou nous atteint pas, selon les journées. C'est sûr qu'étant jeune, j'ai été prise dans une polarité ou dans une dualité qui n'a pas toujours été évidente parce que on préfère jeune faire partie du lot, du rang. Alors que essentiellement, j'ai aucune intention de faire partie du rang. Ça fait partie de moi, ça m'amuse même. Je me souviens de mon directeur à l'école de théâtre, il me disait, mais Joanne, qu'est-ce qu'on fait là si tout le monde est comme toi? Ben je dis ben on verra. Mais en attendant, il y a pas beaucoup. Je suis la seule. Donc il faut s'accepter, il faut apprendre à s'aimer. C'est là vraiment.
Et en même temps, il y a une phrase que je note dans la page 28 de votre livre. C'est certain que je ne me laisserai pas abattre. Je ne veux pas mourir et tout ce que je suis de trop va enfin me servir.
Voilà. Oui, parce que quand j'ai appris, je me souviens très bien dans la chambre d'hôpital quand elle m'a dit elle me dit il me reste 1 an et demi, je me dis oh là là là, qu'est-ce que je fais pendant 1 an et demi? Je m'en vais dans la colère, j'en avais beaucoup, je m'en vais dans la dépression ou je m'en vais dans ma lumière. Puis je me suis dit, ben voilà, t'as tellement de lumière en toi, exceptionnellement beaucoup de lumière, d'énergie, de vitalité. Au lieu que tu sois gêné ou que tu sois sensé parce que les gens réagissent à ça, ben c'est que tu vas t'en aller dans ce côté-là et tu vas au contraire le laisser sortir, vivre avec. Et ceux qui n'aimeront pas ça, tu ne portes, je ne porterai pas flanc à ceux-là. Je vais porter flanc à ceux qui m'aiment.
Bien sûr. Parce
qu'on est dans la nature humaine, on va avoir, je ne sais pas moi, 50 critiques ou 50 opinions et on va retenir la négative. On est comme ça. Les humains, on est fait comme ça. Et moi, j'étais déjà dans une démarche. J'ai fait un retour aux études à 50 ans. Je suis devenue coach de vie en programmation neurolinguistique. Donc, nourrir la sérénité, cesser cette quête du bonheur qui est absolument navrante et parfois décourageante. Alors, j'avais l'occasion là de devenir ce que je suis, un être absolument exceptionnel, unique. Comme chacun de nous. Mais moi, je suis dans l'expression de tout ça. Je suis une femme expressive. Je suis un être humain expressif. Mais oui, il y en a.
Mais oui.
Ça existe. Et je crois qu'il faut nous lâcher l'os de plus en plus parce que nous sommes dans une société assez sombre, assez noire. Je ne voudrais pas me lancer dans une polémique féministe non plus, mais on a besoin de phare.
Oui. Oui.
On a besoin de lumière. On a besoin de guide, d'humble guide. J'en fais partie. Voilà. Pour moi, et puis pour la société dans laquelle on vit en ce moment.
Pourtant, vous dites à un moment donné aussi, en page 32, « Moi qui ai si souvent voulu mourir, maintenant que ce serait possible, je ne veux plus. »
Oui, je viens d'une famille, du côté de mon père, les Fontaines, d'une famille d'alcooliques, donc de dépressifs. Et j'ai dans mes racines ça. Donc, j'ai été habitée par quelques dépressions. Dépression nerveuse, oui. J'ai toujours su rebondir. J'y suis allée. Oui, il y a eu des moments où j'ai voulu mourir. Alors, on ne se rend pas compte quand on dit ça. Il ne faut pas dire ça.
Ici, il y a un extrait, bon, justement, sur la sérénité. C'est l'extrait que je vais lire en seconde partie. Ah bon? Parce qu'en seconde partie, je lis toujours un extrait d'au moins 4 ou 5 minutes.
Okay.
Mais je voudrais aller à la fin de cet extrait-là, parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Sérénité, spiritualité, méditation, prière, ces mots-là font désormais partie de votre vie ou on faisait déjà partie avant?
Oh non, tout jeune. J'ai été en contact avec ma vie spirituelle assez jeune, même à l'âge de 7 ans. J'ai eu une grande souffrance. Je croyais que mon corps n'allait pas supporter. Et je me suis levée à l'écorce d'un arbre, un cormier. Et c'est la sève de l'arbre qui m'a détendue, qui m'a calmée. Alors, j'ai tout de suite eu accès à beaucoup de créativité, de folie. Je suis comme une folle, et une spiritualité certaine. Donc, à partir de ce moment-là, la nature devenait un refuge, devenait quelque chose d'apaisant, parce que je suis essentiellement, enfin, de moins en moins, mais j'essaie, mais je suis assez quelqu'un d'assez nerveux aussi, d'assez fébrile.
Ça vous calme.
Ça me calme. Et puis, par rapport à ce que je vis en ce moment, ben, la spiritualité me permet de me connecter à mon corps malade, à mon cœur, à mes valeurs, à ce que je suis, et à tout ça connecté dans une vie spirituelle qui est beaucoup plus grande que moi, ce qui me permet de cette union de ces corps-là me permet de vivre dans un liquide amniotique, dans ma tête, dans mon imagination.
Oui, oui.
Donc, je suis toujours en processus de régénératif.
Alors, vous êtes une femme débordante d'optimisme, et d'ailleurs, à un moment donné, vous dites, mais alors, après tout, suis-je dans le déni? Qu'est-ce que c'est que cet optimisme débordant? Je vous pose la question parce que je suis convaincue qu'il y a forcément plein de gens qui font « Non, mais elle commence à nous fatiguer, elle, avec son optimisme débordant.
» c'est peut-être des conséquences à une certaine résilience.
Oui, oui.
C'est aussi, je crois qu'on a profondément les choix dans la vie. On a le choix de qu'est-ce qu'on entretient. Je me lève le matin, j'entretiens mes saboteurs, j'entretiens la noirceur en moi, ou je m'en vais dans une autre partie de moi qui est jeune, qui a un avenir. Alors, qu'est-ce que je privilégie dans la vie? Alors, moi, je vais privilégier mon optimisme, mes qualités, mes ressources. Il faut apprendre à s'aimer.
Parce que vous aviez un problème aussi face à ça.
Ben, Ben, comme bien des personnes. Comme bien des personnes, on est capable d'aimer beaucoup, on est capable d'aimer notre amoureux, notre amoureuse, on est capable d'aimer nos enfants, nos amis.
Mais aujourd'hui...
On n'arrive pas à s'aimer. Je suis assez folle de moi.
J'adore ça, être dérangée par vous. Joanne Fontaine, merci. Mon cancer, non. Ce n'est pas mon cancer, c'est le cancer. Je ne suis pas mon cancer. Lui et moi ne sommes pas la même entité. J'identifie l'ennemi pour mieux le combattre, bien lui faire face. Il devient comme un cadeau dans ma vie. Il m'entraîne dans mon ultime peur, celle de mourir. Mais voilà, il s'agit là d'une finalité inévitable. Comme on meurt qu'une seule fois, je préfère mourir avec panache. Je ne veux pas que ce soit ordinaire. Cela étant dit, je ne me sens pas sur le point de mourir. Bien au contraire, je suis très loin de l'agonie. J'ai l'impression que je n'ai jamais été aussi heureuse, confiante, dynamique et positive. Je suis obligée de recevoir, obligée de prendre le temps, et cela sans m'étourdir dans toutes sortes de projets. Je prends soin de moi sans aucune culpabilité. Je suis entourée d'amour. L'amour. Qu'avons-nous besoin de plus que d'amour? D'argent. Mais en ce moment, la question ne se pose même pas. Il m'en reste un peu. Bien entendu, être malade n'a jamais enrichi personne. C'est pire encore pour les travailleurs autonomes. J'ai du temps pour éprouver de l'angoisse et de la peur. Par contre, j'ai encore plus de temps pour les transcender. C'est comme si la vie était simple. Mon objectif est clair et fondamental. Je veux vivre. Un point, c'est tout. Je possède ce dont j'ai besoin, les capacités et les ressources. Je suis apaisée par la présence accueillante et rassurante de toutes ces personnes qui m'aiment et qui mettent tout en œuvre pour m'aider à m'en sortir. Je suis tout le contraire d'une personne abandonnée. C'est un baume pour mon moral, une énergie qui m'est nécessaire, qui me calme. Je prends le temps de compter mes bénédictions. J'entretiens un profond sentiment de gratitude. Je ne suis plus à la recherche du bonheur. Je choisis la sérénité. Oui, c'est ça, la sérénité. Ça me permet de rencontrer le bonheur et son contraire plus simplement, plus profondément, plus lucidement, sans débordement et avec autant d'intensité. La sérénité est moins décevante que l'est parfois la quête du bonheur. La sérénité me permet de franchir les épreuves avec plus d'insouciance. Justement, avec ce qui m'arrive, heureusement que je comprends et choisis cette avenue. À la sérénité, je rajoute la joie. Vivre en état de joie, cultiver la joie à chaque moment du jour, avec chaque personne que j'ai la chance de recevoir à la maison, à chaque repas, à tous les moments. Et surtout, surtout, célébrer la vie qui circule dans mes veines. Célébrer la nature si réconfortante qui s'offre à mon regard, à tous mes sens, source de spiritualité intense. Célébrer les rencontres. Célébrer tout simplement comme nous le faisons très rarement, happés que nous sommes par le quotidien.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. En el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto y el canto de todos, es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
Voilà, pour vous qui venez peut-être de vous joindre à nous, c'était la voix de Joanne Fontaine que vous entendiez. Je l'avais reçue en novembre 2017 et je lisais juste avant la chanson de Mercedes Sosa un extrait du livre « Hop la vie » de Mercedes Sosa. Yannick Olassa, rebonjour.
Rebonjour.
Mathieu Simard, je n'ai jamais lu de Mathieu Simard, c'est pas bien. J'ai hâte que vous nous parliez de « La tendresse attendra ».
C'est vraiment pas bien, parce que moi, en tout cas, c'est un des écrivains chouchous.
C'est vrai.
Oui, absolument, absolument. La tendresse attendra, c'était, je pense, le deuxième roman adulte qu'il a publié en 2011. Mm-hmm. En fait, c'est l'histoire d'un écrivain qui décide de devenir plombier, et là, je le mets en guillemets, pour prouver à son ex qu'il est capable de changer. Et ça va comme ça. Je vous en dis pas beaucoup plus. C'est
oui,
une
oui.
histoire qui parle, bien sûr, de déchirure, mm-hmm. de fin de relation, etc. C'est drôle.
Oui.
Et touchant en même temps. Et Mathieu Simard a une superbe plume. Il utilise le processus qu'on appelle, en fait, le phénomène qu'on appelle l'évocation. C'est cet art de dire beaucoup en peu de mots. Hmm. Vraiment, il est efficace dans son écriture. C'est fluide. C'est vivant, vraiment. Hmm. Et ben, en fait, j'aimerais vous lire un
oui, extrait. Oui, oui, absolument.
Garder du temps. Alors, ça va comme suit. Te souviens-tu de toutes les fois où je t'ai dit que tu étais la plus belle femme au monde? Je mentais. Si j'étais Pinocchio, mon nez me poignarderait dans le dos. Tu n'es pas si belle que ça. Chaque fois qu'on entrait dans un restaurant, les clients déjà assis se retournaient, nous regardaient et replongeaient dans leur assiette. Puis, plus rien. Si tu avais été une plus belle fille, les gars se seraient retournés une deuxième fois. Moi, ça faisait mon affaire. Chaque fois en entrant dans un restaurant, je les trouvais épais de ne pas voir ce que moi je voyais, de ne pas savoir ce que je savais. D'emblée, j'étais meilleure qu'eux, dès leur premier pas, dans n'importe quel restaurant, meilleure qu'eux parce que j'avais à mon bras la fille la plus haute au monde et qu'eux n'espéraient que la fille la plus belle. Ils ne connaissaient pas ton regard en clin d'œil comme quand on disait, comme quand quelqu'un disait grosso modo. Ils ne connaissaient pas ton sourire amusé quand It's Raining Men passe à la radio, ni le frémissement de ton sourcil droit quand une main se pose sur ta hanche, ni tes crocs tranchants quand ton cousin te dit que Richard Desjardins, au fond, il est assez ordinaire. Christ que je t'aime. Tu étais parfaite pour moi malgré les vagues et leurs creux, malgré les bouts d'ongles que tu laissais traîner dans le lavabo. Mm. Tu es parfaite. Mais les immortels finissent toujours par mourir, si ce n'est par eux-mêmes, par l'absence des autres. Tu es partie un soir de canicule et on s'est effrité en miettes de mortels. Mm. En t'enfuyant par la fissure dans le béton, tu as fait naître un trou sombre qui m'aspire l'intérieur depuis 3 mois.
Hmm. Je repense à Marie de Mers, hein, qu'on recevait au début de l'émission avec ses désordres amoureux. On est encore dans un désordre amoureux, là.
Oui, ben on est en fait dans cette espèce de d'insécurité, de solitude, de souffrance qui fait qu'on cherche, dans ce cas-ci, en tout cas particulièrement, on cherche dans le regard d'autrui une confirmation de notre valeur. Donc, ça tourne beaucoup autour de ça et ça nous fait vraiment réfléchir ce roman-là. Et puis, ben, il y a une fin qu'on ne voit pas venir, mais du tout.
Du tout, et dont on ne parlera évidemment pas pour penser à ceux qui vont aller se procurer « La tendresse attendra » de Mathieu Simard, un livre qui existe évidemment en audio, j'imagine via le SQLA, mais peut-être aussi via d'autres services audio. Merci beaucoup, Yannick Olassa. Au plaisir de vous réentendre. « La tendresse attendra » de Mathieu Simard, mais pas Yannick Olassa qui va nous revenir. Salut. Allez, une proposition, n'en attend pas une autre. Allez, on se dit tout de suite, on y va avec Hélène. Hélène Gauthier, toujours bibliothécaire au SQLA. Bonjour Hélène.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ça va bien. Alors Hélène, aujourd'hui, quelques titres si vous voulez nous proposer.
Oui, mais j'allais commencer avec Le corps des libraires, histoire de quelques librairies remarquables et autre chose.
Juste reculer un petit peu du micro. Voilà, c'est ça.
De Vincent Puente.
Oui.
Donc, Vincent Puente, c'est un libraire qui fantasme de librairie, finalement. Il travaille dans une petite librairie du 7e arrondissement de Paris qui a été créée par Karl Lagerfeld. J'ai appris ça en ligne. Donc, 7L, une librairie qui se spécialise en design et en photographie. Donc, lui, quand il vend pas de livres, il écrit sur le sujet. Donc, c'est un livre qui a mis 4 ans à achever, mais c'est plein de petites anecdotes qui parlent d'endroits de librairie à ne pas manquer. Donc là, on se lance, on se met à lire ces petites anecdotes, on se dit « Oh mon Dieu, mais je veux y aller, mais je veux y aller ». Quand on aime les livres, on se fait une liste. Hein, on dit, moi,
Partout dans le monde.
Wow. Mais là, en lisant, on se rend compte que « Oh, peut-être il y en a ajouté un petit peu, peut-être il y a exagéré un petit peu, peut-être que c'est pas tout vrai, qu'il a embelli la réalité, malheureusement ». Donc Google, c'est pas son plus grand ami à Vincent Puente. Donc, deux petites histoires qui sont particulièrement savoureuses. Il y a une librairie hongroise qui est détruite dans un torrent de boue et qui est maintenant un hôtel pour les spéléologues bibliophiles.
Oui, parce qu'ils font des recherches. Pour les trouver. Pour les trouver, bien sûr.
Et il y en a une autre d'une librairie qui est tellement labyrinthique à sa fermeture. On a perdu un des libraires, mais heureusement, il y avait un garde-manger dans son rayon. Donc, je ne peux pas vous garantir que vous allez pouvoir visiter ces librairies, mais c'est très agréable de se perdre dans ce livre. J'en ai un petit extrait pour vous.
Oui.
Donc, librairie L'Ectoplasme. Située dans la petite France à Strasbourg, non loin d'un canal où au beau jour il fait bon boire un verre sur l'une des péniches qui ponctuent les quais, cette librairie se pare d'une devanture accueillante, un peu à l'ancienne, avec des parements en bois peint et une belle calligraphie arrondie sur le fronton. Elle possède toutes les caractéristiques de ces librairies dont on franchit le seuil en savourant son plaisir à l'avance. On en ressort rarement sans avoir fait une acquisition, généralement un livre dont on a repoussé l'achat de mois en mois sans savoir exactement pourquoi. À L'Ectoplasme, tout est propre et immaculé. Il n'est pas un grain de poussière, une trace de pas, une empreinte de doigt qui ne soit méticuleusement traquée, époussetée, lavée, effacée. Du reste, dans cette ambiance aseptisée que rien ne laisse présager du dehors, le visiteur est tout aussi indésirable qu'un pinson violet. L'irruption d'un client pèse sur le libraire comme un bloc d'anxiété. Le malaise le dispute ici à l'agacement jusqu'au moment où l'intrus tente, comme il est normal dans une librairie, de se saisir d'un livre. Ce geste anodin marque le moment où les rôles s'inversent, où le trouble change de camp. Et donc, je vais vous laisser découvrir pourquoi on est si troublé.
D'accord. Le corps des libraires. Histoire de quelques librairies remarquables et autre chose de Vincent Puente. Autour d'Eva de Louis Hamelin.
Oui, Louis Hamelin qu'on a connu au succès de son œuvre La constellation du lynx. Donc, son nouveau roman se déroule en Abitibi. Donc, c'est une histoire de paix, de silence, parce que bon, c'est tranquille en Abitibi, hein? Mais c'est aussi sur un fond de tension entre des développeurs et des écologistes. Donc, le personnage principal, la Eva du titre, revient dans sa ville natale pour avoir la sainte paix. Mais ses plans sont contrecarrés car il y a un promoteur qui veut construire un hôtel de luxe sur la rive d'un lac. Mm-hmm. Les riverains se mobilisent pour protéger l'environnement. Et donc, on se lance dans cette lutte épique. Donc, c'est très bien écrit avec des mots très savoureux qui jettent quand même un regard intéressant sur les promoteurs et les politiciens au Québec. On est habitué à avoir un regard critique sur les politiciens, mais Louis Hamelin a été militant écologiste. Donc, il amène aussi un regard critique sur les groupes de pression écologistes et des fois les petites bagarres intercines qu'il peut avoir dans ces groupes-là.
Autour d'Eva de Louis Hamelin. Possédé de Frédéric Gros.
Donc là, on va dans un tout autre univers. Oui. Donc, c'est basé sur des faits historiques dont on parle toujours. Donc, si on fait des recherches en ligne, on trouve ça a inspiré des cinéastes, des essayistes, ça, des articles de gens qui sont dans des universités. Donc, c'était en 1632, dans la petite ville de Loudun, en France. Oui. Il y a une supérieure du couvent des Ursulines qui soudainement est prise de convulsions, d'hallucinations. Assez rapidement, il y a d'autres sœurs qui la suivent et l'Église les déclare comme étant possédées. donc les fameuses possédées du titre. On pense un petit peu à un effet comme les sorcières de Salem ici, là où tout le monde est entraîné dans cette folie. Donc, on fait des exorcismes, les démons se prononcent et désignent un maître, Urbain Grandier, le curé de la ville. Donc, tout ça se passe pendant l'Inquisition en France.
Mais oui.
Et ce fameux prêtre qui est accusé, ben il était catholique, mais il soutenait aussi les protestants. Donc, on se doute qu'il y a peut-être des petites choses qui se passent. Il était ennemi du cardinal Richelieu. Donc, est-ce que c'est vraiment la possession de ces femmes? Donc,
Alors, possédé, Frédéric Gros. Il ne nous reste plus qu'un petit 20 secondes. Et c'est un anniversaire, il y a d'un grand classique.
Les quatre filles du Dr March, qui a marqué mon enfance. Oui. Donc, l'anniversaire de son édition, le 150e anniversaire de publication, qui a été populaire en France dès sa traduction. Et moi, je voulais seulement mentionner que, bon, ça a été traduit au Dr March, mais il n'était pas docteur, le père des quatre filles. Il était aumônier, mais en France, c'était mal vu parce que c'était la République. Donc, on ne voulait pas. Donc là, on retient qu'il était docteur, mais il ne l'était pas. Ce n'était pas docteur de médecine.
Merci beaucoup, Hélène Gauthier. Tous ces livres sont au SQLA, bien sûr. C'est la fin de l'émission des livres plein les oreilles. Encore une fois, merci beaucoup à vous, Hélène Gauthier, à Yannick Colassa, à Marie Demers. Merci Charles Aznavour et Joanne Fontaine d'avoir existé. Surtout vous peut-être, Joanne, pour la transmission de l'amour de la vie. À la semaine prochaine.